soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde au féminin.
Hey you, over there, please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse. La Guinée équatoriale, dirigée depuis 44 ans par Teodoro Obiang Nguema, s'est dotée d'une femme première ministre. Manuela Roca Botey est vice-doyenne de la faculté des lettres et des sciences sociales de l'Université nationale de Guinée équatoriale. Elle est entrée au gouvernement en août 2020 en tant que ministre déléguée à l'éducation nationale, à l'enseignement universitaire et au sport. Le vice-président Teodorin Obiang, fils du chef de l'État, s'est félicité de cette première qui, selon lui, est une preuve en faveur de l'égalité des genres dans le pays. Les trois vice-premiers ministres, trois hommes, ont été reconduits. La Guinée équatoriale est dirigée depuis 1979 par M. Obiang, qui détient le record mondial de longévité au pouvoir. Son régime est régulièrement blâmé pour une corruption endémique. Le professeur afghan Ismail Mashal s'est fait connaître dans le monde entier à travers un acte aussi insolite que courageux lorsqu'il a déchiré en décembre 2022 ses diplômes en direct sur la chaîne privée Tolo News. Geste de protestation pour défendre le droit des femmes à suivre des études, alors que les talibans, après les avoir bannis du secondaire, leur ont interdit d'accéder à l'université. Monsieur Mashal a démissionné de trois universités privées de Kaboul. Les médias locaux l'ont filmé alors qu'il poussait dans les rues de la capitale un chariot rempli de livres, les offrant aux passants. Début janvier, son assistant a dit qu'il a été battu et arrêté. Le directeur du ministère de l'Information a dit que les services de sécurité l'ont emmené pour une enquête due à des actes subversifs. Sur le plateau de télévision, le professeur Mashal a déclaré que ses diplômes sont devenus inutiles puisque sa mère et sa sœur ne peuvent pas étudier. En Suisse, les jeunes ont été hospitalisés à un rythme sans précédent entre 2021 et 2022 pour des problèmes de santé mentale, selon l'Office fédéral de la statistique, estimant que la pandémie de Covid-19 a sûrement joué un rôle dans cette progression. Pour la première fois, les troubles mentaux sont devenus la principale cause d'hospitalisation chez les 10 à 24 ans. L'analyse met en évidence une augmentation de 26% des admissions à l'hôpital de filles et de jeunes femmes pour cause de santé mentale, contre 6% pour les garçons et jeunes hommes du même âge. Les filles de 10 à 14 ans sont les plus touchées à 52%, contre seulement 1% l'année précédente. L'étude révèle aussi une augmentation des niveaux de dépression de 42% chez les jeunes femmes, contre 14% chez les jeunes hommes. Les tentatives de suicide en Suisse ont fait un bond de 26%, les filles et jeunes femmes représentant 70% des cas.
Parole de femme.
Au Cameroun, de nombreux réfugiés nigérians qui ont fui les exactions des islamistes armés retournent dans leur pays d'origine. Parmi eux, des femmes bénéficient d'un programme de réinsertion socio-économique. Notre correspondant Emmanuel Juntab s'est rendu dans le camp de réfugiés Minawo, dans le nord du pays. Voici son reportage.
Nous sommes au camp des réfugiés de Minawo, dans l'extrême nord du Cameroun, proche du Nigeria. Les réfugiés s'enregistrent pour confirmer leurs intentions de retour volontaire à la veille de départ d'un convoi de rapatriement chez eux. Dans les rangs, Falmata Moussa, une mère de 6 enfants qui a passé 6 ans au Cameroun et retourne à Banki, une ville de l'état de Borno, au Nigeria.
J'ai ma machine à coudre, je compte m'installer là-bas pour développer mon activité. J'ai fait un an de formation avec M. Moïse de Plan International. Il nous a formés et nous avons acquis des capacités.
Comme Falmata, plusieurs autres femmes nigérianes, réfugiées du camp de Minao, ont bénéficié des formations professionnelles. Bettina Gambert est la représentante adjointe du ACR au Cameroun.
Beaucoup de femmes donc, ont bénéficié de ces formations. Donc là, c'est avec nos partenaires, mais également avec le MINPROF, où des formations professionnelles ont été dispensées, aussi bien certains domaines tels que la couture, la coiffure et autres. Et on a mis également un accent particulier sur des femmes qui avaient été victimes de violences, pour que, justement, quand une femme est victime de violence, dans la réponse, on essaie à ce que la femme puisse accéder assez rapidement à une activité professionnelle pour qu'elle puisse redevenir autonome et indépendante le plus rapidement possible.
Un volet assistance s'applique aussi lorsque ces anciens réfugiés regagnent leur pays d'origine. Hélène Ngo, porte-parole du HCR au Cameroun.
Ils bénéficieront d'un abri semi-durable. Il y aura aussi une assistance en cash, une assistance alimentaire pendant 6 mois. Il y a le plaidoyer que le HCR fait pour les activités génératrices de revenus. Le plaidoyer est vraiment transversal pour faciliter la réintégration de ces réfugiés dans la société ou dans la communauté dont ils vont se retrouver.
66 000 réfugiés nigériens, dont majoritairement des femmes et des enfants, ont été accueillis au Cameroun depuis 2013. Leur insertion socio-professionnelle se passe plutôt bien, d'après Lawan Abba Walkibé, commissaire à l'éducation dans l'état de Borno.
Tout est prêt pour recevoir ce convoi des réfugiés. Si vous voyez avec les derniers que nous avons accueillis, tout l'accompagnement en leur faveur est un succès. Il n'y a pas de point négatif. Donc, nous sommes prêts pour les recevoir et les réintégrer normalement.
Le Haut Commissariat pour les réfugiés assure que les ex-réfugiés femmes regagnent leur localité d'origine, munis des documents officiels tels que les actes de naissance de leurs enfants nés au Cameroun, afin de faciliter leur éducation. Emmanuel Juntap, depuis le camp de réfugiés de Minao, pour VOA Afrique.
Un mouvement catholique clandestin a débuté en 2002 avec l'ordination secrète de cette femme en Allemagne par des évêques masculins officiels. Le mouvement s'est développé et compte 250 femmes dans le monde, malgré les règles de l'Église catholique qui empêchent les femmes de devenir prêtres. Dilidico nous en dit plus.
Dans le monde entier, les messes catholiques suivent le même ordre avec les mêmes préceptes.
Béni soit Dieu pour toujours.
Mais il y a quelque chose d'inhabituel. Cette femme.
This is my body, which will be given up for you.
Ici, la messe est dite par une femme, pas de père, Kathleen.
These honorific titles.
Ces titres honorifiques donnent le sentiment que certaines personnes sont mieux que d'autres.
Kathleen Blank Ritter dit avoir été ordonnée prêtre catholique romain il y a 2 ans, une femme interdite dans une hiérarchie religieuse masculine.
Every woman I know who's been ordained.
Toutes les femmes que je connais qui ont été ordonnées ont vécu cette expérience, ce ressenti, cet appel profond qui leur faisait savoir que c'était le travail qu'elles étaient appelées à faire. C'est le Saint-Esprit.
This is the Holy Spirit.
Mais en vertu du droit canonique, l'Église catholique excommunie les femmes qui disent exercer la profession de prêtre. Le révérend Akinas Gilbo dirige les ministères religieux sur le campus de l'Université catholique.
Elles passent par toutes les étapes de la célébration d'un sacrement. Mais cela ne serait pas valide.
Madame Ritter n'est pas seule. Il y a environ 10 autres femmes qui officient la messe dans la région de Washington, D.C. et font partie d'un mouvement mondial qui comprend 250 femmes. En Colombie, Olga Lucia Alvarez, 72 ans, dit avoir été appelée à la prêtrise pour célébrer la messe dans des régions reculées qui manquent de prêtres. En Afrique du Sud, la VOA s'est entretenue avec 3 femmes qui célèbrent la messe en ligne et en personne avec un ministère basé sur la justice sociale.
Nous ne sommes pas payés pour être prêtres, ce qui signifie que celles d'entre nous qui sont en âge de travailler ont un emploi. Et beaucoup d'entre nous ont un emploi dans l'activisme social, que ce soit autour des questions raciales, de genre ou liées au handicap.
Pendant le service, des mots à connotation masculine comme prêtre sont changés pour être plus inclusifs.
Au nom du Saint, Créateur, Libérateur et Souffle de vie.
Lors d'un synode catholique international, les églises ont fait de la question des femmes prêtres un sujet de discussion majeur. Mais le chef de l'église catholique, le pape François, n'est pas d'accord.
L'église a parlé et a dit non. Jean-Paul II l'a dit avec une formule précise, cette porte est fermée.
La femme prêtre, Diane Willman, de Johannesburg, appelle cela l'apartheid des genres.
And you're supposed to be equal.
On est censé être égaux, mais on ne l'est pas. Alors de quoi s'agit-il? Pourquoi y a-t-il une séparation qui mène à l'inégalité?
L'Église s'est trompée sur l'esclavage, l'Église s'est trompée dans la doctrine de la découverte qu'elle a utilisée pour justifier le colonialisme. L'Église s'est trompée avant et elle se trompe maintenant.
Après environ 2 millénaires de catholicisme, le Vatican n'a autorisé les femmes à servir à l'autel qu'en 1994.
Si je ne pouvais.
Au Bénin, malgré les nombreuses sensibilisations, il est toujours difficile de maintenir les filles à l'école. Le mariage forcé des enfants et les grossesses précoces sont l'une des causes de la baisse de scolarité des filles. Un reportage de Ginette Fleuradandé.
Considéré comme l'ensemble des difficultés qui empêchent l'apprenant inscrit dans un lycée ou collège d'achever ses études dans le délai prescrit, les causes de la déperdition scolaire sont multiples. Conscient que les filles sont les plus touchées par la situation, le gouvernement depuis quelques années a décidé de rendre l'enseignement gratuit aux filles jusqu'au collège. La nouvelle a été bien accueillie par les parents d'élèves, surtout ceux qui ont du mal à payer la scolarité pour leurs enfants.
Bon, nous, on n'a pas eu la chance de passer par là.
C'est une très bonne chose. Ça va permettre aux filles de mieux s'insérer dans le milieu scolaire et d'aller le plus loin possible, d'aller dans les instances de décision. Il faut encourager, mais il faut motiver surtout le développement de la nation.
Malgré les efforts du gouvernement et des organisations pour freiner ce phénomène, il persiste et les raisons sont nombreuses. Marie-Rose Amoussou est médiatrice. Elle évoque ici les raisons que lui donnent les parents pour expliquer leur réticence à envoyer les filles à l'école.
Tout a commencé avec des sensibilisations et je suis là pour jouer le rôle d'intermédiation sociale en cherchant à savoir les causes d'abandon. Les parents donnent comme l'une des raisons que les grandes filles doivent rester à la maison et garder leurs petits frères ou sœurs.
Mais il n'y a pas que cette raison-là. Il y a également le mariage précoce.
Une fille qui est en état de grossesse court 5 fois plus de risques de mourir lors de son accouchement. Donc l'enfant ne peut pas donner naissance à l'enfant.
Grâce à des actions combinées du gouvernement et des Nations Unies, certaines zones du Bénin, connues pour leur faible taux de filles à l'école, sont en train de se mettre au pas, même si le chemin est encore long. Raymond Koudjé est enseignant.
La scolarisation a un tableau peu reluisant et il a fallu l'intervention de programme de l'UNICEF pour insuffler un certain dynamisme au tableau de scolarisation des enfants en général et des filles en particulier. L'UNICEF est venu en appoint aux enfants à travers les kits scolaires, la dotation de mobilier. Présentement, les enfants s'asseyent à 2 par table-banc. La dotation de l'école en manuel et en cahier d'activité.
En dehors des bourses et autres accompagnements, le gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire intégrée au Bénin, a mis en place les cantines scolaires afin d'aider les parents qui sont dans des conditions précaires, selon le ministre des enseignements maternels et primaires, Salimane Karimo.
Le rôle de l'école, en réalité, et a priori, c'est faire acquérir aux apprenants le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, peut-être également le savoir-devenir. Pour cette raison, l'État met en place les infrastructures. L'État équipe les écoles en matériel didactique. C'est le rôle de l'école.
Outre les chefs d'établissement et parents, l'État et ses partenaires doivent également jouer convenablement leur rôle. Ils doivent intensifier la sensibilisation et multiplier les actions auprès des élèves, surtout des zones reculées et frontalières du Bénin. La édition scolaire, c'est une affaire de tous. De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique.
Monde au féminin de VOA Afrique. Une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Au Togo, le projet Ghetto fait parler de lui, notamment à Lomé, la capitale. Lancé en 2021 par la commune Golf 1, c'est un programme de reconversion qui vise à aider les jeunes à sortir des ghettos et, dans le même temps, à arrêter la consommation de la drogue. Aména Signon est allée à leur rencontre.
Dans ce repère de toxicomanes situé au quartier Bay à Pédomé, à Lomé, Julien et quelques-uns de ses amis font la ronde pour sensibiliser les jeunes sur les méfaits de la drogue. Julien est aussi l'un des résidents de cet endroit peu recommandable, communément appelé ghetto, et dans lequel il vit depuis un an et demi. Il fait partie de ces jeunes sans repère, en proie aux stupéfiants.
Moi particulièrement, j'avais pas de chute. Et en plus, les mauvaises compagnies ont fait que je suis rentré à ghetto et je fume.
Il y a quelques mois, Julien a fait le choix de reprendre sa vie en main. Il s'est inscrit à un programme d'appui à la réinsertion des jeunes issus des ghettos. Dans ce centre de formation, Julien et d'autres bénéficiaires sont formés en artisanat pour leur réinsertion professionnelle.
On les apprend l'artisanat, donc particulièrement le macramé et le tissage des lits picots, les sacs en nylon, tout ce qu'on peut tisser avec la main, avec les fils. Nous n'apprenons pas seulement l'artisanat, mais nous leur faisons une formation psychopédagogique.
En 6 mois, le programme a accompagné une vingtaine de jeunes. Le travail a consisté à les sensibiliser sur les méfaits de la drogue et à leur apporter un soutien socio-sanitaire, psychologique, pour leur prise en charge et leur réinsertion intégrale dans la société. Un pari réussi selon les initiateurs du projet.
Ça fait pratiquement 6 mois qu'on a commencé et les résultats sont concluants puisqu'il y a les vingtaines de personnes qu'on a mobilisées qui sont toujours là pour suivre la formation et même sont déjà prêts pour qu'on puisse leur donner les moyens pour s'installer.
Ce programme est destiné à créer un impact significatif dans la vie de ces jeunes issus des ghettos et leur montrer que des solutions existent pour les aider à arrêter la consommation de la drogue et sortir de la précarité.
Le méfait de la drogue, c'est nuisible, ça nous tue, c'est pas bon. Le projet m'a apporté beaucoup de choses. Premièrement, connaissance. Deuxièmement, ça m'a beaucoup changé mentalement. Ça fait que bon, j'ai quelque chose en main. Je peux aller faire mon travail pour gagner de l'argent.
Lomé, la capitale, compte plus d'une cinquantaine de ghettos. C'est dire à quel point le sujet interpelle. Ce projet n'est qu'à sa phase pilote, mais les résultats déjà obtenus constituent un modèle qui peut être répliqué dans d'autres communes du pays pour lutter contre l'insécurité. Aména Signon pour VOA Afrique, Lomé.
Entre parenthèses.
En République démocratique du Congo, un artiste de Bukavu dans le sud Kivu crée des portraits colorés de politiciens du pays. Son art est environnementaliste car il fait la différence à travers sa peinture composée à partir de déchets plastiques. Un geste engagé visant à alerter sur l'inaction généralisée en matière de protection de la nature. Un récit de Yakuba Ouedraogo sur cet artiste écologiste.
À première vue, ce sont des portraits d'hommes politiques de la République démocratique du Congo. Les visages sont souriants comme celui de l'actuel président Félix Tshisekedi et celui de son prédécesseur Joseph Kabila. Ils ont été ramenés à la vie grâce à des déchets plastiques qui sont collectés et fondus par Patrick Sikuru Sirimwami.
Mon grand message aujourd'hui, c'est pour les autorités, c'est qu'elles doivent nous dire comment on va protéger l'environnement. C'est pour ça que je me suis dit que je dois continuer à utiliser les déchets plastiques, comme les sacs, les bouteilles, les bassines usagées, que je transforme en faisant des dessins.
Il collecte ces matériaux en pataugeant jusqu'au genou dans une montagne de bouteilles en plastique près des rives du lac Kivu. Il n'y a pas de collecte publique des déchets. L'artiste affirme que les déchets provoquent souvent des pannes dans la centrale hydroélectrique locale, entraînant des coupures de courant. Il soutient que c'est ce qui l'a incité à lutter contre le problème en réutilisant le plastique usé.
Je constate que dans notre ville de Bukavu, il y a beaucoup de déchets que les gens ne savent pas gérer.
En ce qui me concerne, j'ai pris la décision d'apporter ma contribution dans notre province du Sud Kivu en récupérant ces déchets plastiques pour en faire des peintures, comme des dessins, des portraits. C'est ainsi que je peux aider ma province du Sud Kivu.
Il y a produit ma tableau comme dessin.
La République démocratique du Congo a été critiquée pour avoir mis aux enchères des blocs pétroliers dans la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Les autorités ont affirmé qu'elles vont minimiser l'impact potentiellement dévastateur grâce à des méthodes de forage modernes et une réglementation très stricte.
Les réfugiés burundais et congolais hébergés dans l'est du Rwanda se réjouissent eux aussi de contribuer à la protection de l'environnement par le reboisement et l'utilisation du gaz pour la cuisson. Ces nouvelles pratiques ont amélioré la vie d'environ 60 000 personnes dans le camp de Mahama. Jean Damascène Namishimwe est allé à la rencontre de quelques bénéficiaires de ce programme.
Les tambourinés réfugiés burundais vivant au camp de Mahama à l'est du Rwanda, inhabitués à l'accueil des visiteurs selon la tradition de leur pays. Nous entrons dans le camp. Ce sont des maisons en tôle, alignées les unes derrière les autres. Les maisons sont séparées par de nombreux arbres qui embellissent le camp et des arbres fruitiers. Cela n'était pas le cas quand les réfugiés y arrivaient pour la première fois en 2015.
Ce camp a beaucoup changé. En arrivant ici, cet endroit était comme un désert. Il y avait trop de soleil sans pluie. Le vent emportait les maisons, mais aujourd'hui, les arbres protègent le camp. Pendant la saison sèche, les gens trouvent des abris avec du bon vent. L'endroit nous est très agréable.
Nous avons planté des bambous dans cette zone tampon. Ils arrêtent l'eau et l'empêchent de se déverser dans les champs de la population. En luttant contre l'érosion, aussi nous avons protégé les maisons qui pouvaient être trouées, mais elles sont bien protégées grâce à ces arbres que nous avons plantés. Le directeur du camp des réfugiés de Mahama, André Vuganeza, indique que le reboisement du camp a réussi grâce à une intense sensibilisation des réfugiés, une opération qui se poursuit. La politique nationale de la protection de l'environnement met l'accent sur la plantation des arbres. Nous avons mis en place cette politique. Nous avons commencé par des arbres qui luttent contre l'érosion et le vent, et nous continuons avec des arbres fruitiers pour arriver à environ 400 000 arbres. Pour sauvegarder l'environnement, les réfugiés de Mahama ont renoncé à l'usage du bois pour la cuisson. Depuis plus de 3 ans déjà, ils se servent du gaz, qu'ils reçoivent gratuitement du Haut Commissariat des réfugiés. Cette nouveauté fait la joie des réfugiés, en particulier les femmes.
Je fais préparer n'importe quand. Maintenant, tu vois qu'il a plu, mais je fais ma cuisine à l'intérieur de la maison sans problème. Mais dans le temps, avec le bois, on préparait à l'extérieur. Et quand il pleuvait, tout s'arrêtait. Mais pour le moment, tout se fait très rapidement, sans difficulté.
Le camp de Mahama, situé non loin de la frontière rwando-tanzanienne, est le plus large des 5 camps que compte le Rwanda. Il est habité par environ 60 000 réfugiés congolais et burundais, alors que le Rwanda héberge au total environ 120 000 réfugiés. Jean Damascène Manishimwe pour Voix Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. À bientôt et bon courage. Arrête.